Bon, donc bonjour à tous. Donc, comme indiqué, je vais vous parler d'auto-hébergement. Alors, je vais commencer la conf par un petit sondage, si mon truc marche. Bon, je vais faire à l'ancienne, hein. Alors, voilà. Petit sondage. Quand on parle d'auto-hébergement, à quoi vous pensez? C'est des choses que vous feriez comment, sinon jusque-là, si vous auto-hébergeriez pas? Et est-ce que vous savez quel genre de problème ça pose? Donc voilà, je vous laisse répondre. Quoi vous pensez pour l'auto-hébergement déjà? Oui? Ouais. Alors, ouais, soit en association tout ça, bah, pour moi c'est pas vraiment de l'auto-hébergement, pour moi c'est vraiment plus chez soi, mais c'est vrai que c'est tout à fait envisageable aussi, et je veux pas en parler là, mais ça rentre dans le scope, ça c'est tout à fait, ouais. Alors, si c'est un serveur dédié qui est pas chez toi, c'est pas de l'auto-hébergement. T'es hébergé à l'endroit où est ton serveur. Mais ouais. Mais sur les choses qu'on peut mettre sur, si on a son serveur à soi, sur les choses qu'on peut mettre sur son serveur, qu'est-ce que vous verriez? Mail, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, on va parler de tout ça, c'est bien. Généralement, les deux premières réponses qui viennent, c'est le web et le mail, mais on va parler du reste aussi. Donc, comment vous feriez ça? Sinon, bah, on en a parlé, les gens qui prennent un dédié chez quelqu'un. Il y a d'autres trucs, bon, on verra ça après. Bon, allez, je vais commencer. Non, c'est vrai que la télécommande ne marche pas. Voilà. Donc, le plan, de quoi je vais parler pendant ce conf? Alors, bon, petit sondage, on l'a fait. Voilà, je vais parler un peu de moi quand même. IRLNC, le collectif que je représente, je vais en dire deux mots. On va parler de pourquoi l'auto-hébergement, c'est bien. Comment ça marche, Internet, et puis comment on va pouvoir faire de l'auto-hébergement. Et puis, quelques exemples de choses qu'on peut faire tourner sur son propre serveur. Et puis, à la fin, comme des proches, vous faisiez le résumé de son spectacle, moi, je vais vous faire le résumé de la conf. Voilà. On va commencer par moi. Il y a une idée comme ça. Il y a plein de gens qui pensent que s'auto-héberger, c'est compliqué, tout ça. Il faudrait un doctorat en informatique pour y arriver. Bon, pas de bol, il se trouve que je suis actuellement en train de préparer un doctorat en informatique. Mais au moment où j'ai commencé, j'étais apprenti prof d'école et sur tout ce que je vais vous raconter là, bah, j'en savais pas des masses et j'ai tout appris sur le tas. Donc c'est tout à fait faisable, même quand on n'a pas des connaissances particulièrement énormes. Sinon, bon, mon CV rapidement, au niveau de l'implication dans le logiciel libre, je suis membre de l'ALDIL, qui est le GUL lyonnais. Je suis membre d'Ubuntu.fr aussi. Et puis pour ce qui est Internet neutre, tout ça, je suis membre d'ILIS, qui est, bon, je vais en reparler, mais qui est membre de la FEDE à Lyon aussi. Et puis je suis le fondateur du collectif IRLNC, dont je vais vous reparler. Si jamais vous avez besoin de me joindre, bah, je suis souvent sur ERC, Geeknode, Freenode, vous pouvez m'envoyer une query. Je suis sur le forum Ubuntu.fr, donc il y a moyen de me trouver par là aussi. Salut. Et puis, fadrine.irlnc.org, donc ça c'est mon serveur, et à partir de mon serveur, vous pouvez me joindre fa facilement, enfin vous verrez le truc, donc voilà. Le collectif IRLNC. Alors, c'est un collectif d'aide à l'auto-hébergement qui existe depuis 2009, plus ou moins 5 ans. Oui, simplement, c'est que pendant longtemps, c'était un collectif où j'étais tout seul dedans. Donc voilà, pas très collectif. Mais il y a du monde maintenant. Bah, notamment, j'ai un camarade à Lyon qui a bêta-testé ses slides juste avant. Donc apparemment, ça s'est bien passé. J'espère que ça se passera aussi bien ici. Et donc, IRLNC, ça veut dire Internet Réseau Libre Non Centré. Pourquoi ce nom un peu rallongé et bizarre? Quand je dis réseau libre, J'entends vraiment ça au sens de logiciel libre, au sens des quatre libertés logicielles. C'est-à-dire qu'Internet, bah, évidemment, vous pouvez l'utiliser. Vous avez un accès à Internet, vous pouvez surfer, vous pouvez mettre des choses en place, voilà tout ça, c'est bien. Et puis, Internet, quand vous avez un accès, vous pouvez le partager. Donc, bon, j'ai quelques petits exemples ici. Si vous voulez vraiment partager ça bien, vous pouvez rejoindre une des assos de la Fédération FDN. Et là, vous participerez à la mise en place d'un fournisseur d'accès. Ce qui est bien si vous faites ça, c'est que les gens de la Fédération FDN, ils vont vous expliquer comment ça marche, parce qu'on peut étudier Internet aussi. On peut regarder comment ça marche. Et puis, la liberté de modifier. Quand on parle de modifier une œuvre libre, un logiciel ou tout ça, on sous-entend deux choses généralement. On sous-entend ajouter du contenu, on sous-entend ajouter des fonctionnalités. Internet, ça va être pareil. On peut ajouter du contenu sur Internet, on peut ajouter des services sur Internet, et ça, c'est ce qu'on va faire en s'auto-hébergeant, typiquement. Donc, s'auto-héberger, c'est modifier Internet. Donc, ça fait partie du libre. Et pour ça, il y a une conséquence, un prérequis, pardon, je perds mes mots, c'est n'importe quoi. Donc il y a un prérequis, c'est qu'il faut que ce soit pas centré, parce que si c'est centré, ça marche beaucoup moins bien. Alors, ça, c'est un réseau comme on sait en faire depuis les années 1950. En gros, à partir du moment où on a eu suffisamment d'ordinateurs, qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de les brancher les uns sur les autres, on a fait du réseau comme ça. Alors, le réseau comme ça, donc vous avez un gros serveur qui est ici au milieu. La télécommande ne marche pas, mais le pointeur marche, c'est déjà ça. Vous avez un gros serveur ici au milieu. Et puis, autour, vous avez, ce sont des Minitel, pour ceux qui ne voient pas très bien. Typiquement, si vous vous souvenez, le Minitel, c'était gros parce que c'était cathodique, mais à l'intérieur, il y avait juste le clavier et l'écran. Simplement parce que quand on fait du réseau comme ça, le seul qui a besoin d'être intelligent, d'avoir des ressources, c'est celui au milieu. Les autres, ils servent juste à s'y connecter et puis basta. Seulement, ce modèle-là, ça a plein de soucis. Ça a un premier souci, qui est la raison pour laquelle on a essayé de l'abandonner, qui est que ça demande beaucoup de ressources à la machine qui est au centre. Plus on est nombreux, plus elle a de mal à servir tout le monde et donc plus ça rame. C'est quelque chose qui a énormément d'impact au niveau transfert. C'est qu'à chaque fois que vous voulez accéder à quelque chose qui n'est pas chez vous, sur le Minitel, il n'y a pas de disque dur. Donc c'est loin. Chaque fois que vous voulez accéder à quelque chose, ça demande un transfert, ça demande de faire marcher plein de trucs sur le trajet, tout ça, c'est lourd. Donc juste, c'est lourd. Ça fait que y a une personne qui contrôle la machine et cette personne-là, c'est tout ce qui se passe sur le réseau et décide de ce qui se passe sur le réseau. Si elle a envie de couper l'accès de quelqu'un, elle peut. Si elle a envie de dire « Non, cette info, je ne veux pas que ça se diffuse », elle bloque, et puis voilà. Et puis, la contrepartie du monopole aussi, c'est que c'est la personne qui possède le serveur qui décide, mais pas forcément que elle. J'ai envie de faire péter le truc, j'ai juste à aller mettre une bombe à côté du serveur, pouf, le serveur est mort, tout le réseau est mort. Si je m'appelle la NSA, que j'ai envie d'avoir plein d'informations sur les gens, j'ai juste à aller poser mes micros sur le serveur, et puis là, hop, je connais tout le monde, donc c'est pas génial. Et puis, c'est quelque chose aussi qui n'a aucune garantie dans le temps. Ça va durer un certain temps, et puis un jour, la personne qui gère le serveur au milieu va se dire « il y en a marre, on coupe », et ça va s'arrêter là. Le Minitel, typiquement, s'est arrêté, c'est quand même récent, il s'est arrêté il y a un an ou deux, mais il s'est arrêté. Voilà. Donc, pour essayer d'outrepasser tous ces problèmes, de résoudre tous ces problèmes, on a dit qu'on allait faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la façon dont est censé marcher Internet. En gros, vous avez plein de machines qui sont toutes à la périphérie du réseau, il n'y a personne au centre. Alors en fait, si, il y a du monde au centre. Il y a des machines qui servent à faire le relais des unes aux autres, mais leur rôle à ces machines est d'être totalement transparente. Et le but, c'est qu'on ne voit pas qu'elles sont là. Donc, le but d'Internet, pour résoudre tous ces problèmes qui étaient dus au fait qu'on mettait tout chez le serveur, machin, tout ça, le but, c'est de décentrer, de dire que l'intelligence est en périphérie, c'est vos machines, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est un projet qui est super beau en théorie. Malheureusement, en pratique, ça ne donne pas tout à fait ça. Si on regarde l'utilisation d'Internet par la plupart des gens, ça va plutôt ressembler à ça. Donc on n'a plus un seul serveur, on en a plusieurs, mais il y a bien un truc au centre. Et puis les gens qui sont à l'extérieur ne se causent pas entre eux. Ils ne font qu'aller se connecter. Donc ça, c'est pas génial. Et typiquement, ce que je disais sur les soucis que ça pose, au niveau vulnérabilité, on pose une bombe, c'est fini. Google a 80 data centers dans le monde. Pour les faire péter tous en même temps, ça va être dur. Mais par contre, la NSA, quand elle a voulu espionner les gens, ils sont allés voir Google, ils ont mis leur micro là, ils ont pu avoir accès à tout le monde. Au niveau transfert, au niveau, je disais les impacts, ce que ça consomme d'accéder à des données qui sont à l'extérieur. Je viens de dire, Google a 80 data centers dans le monde. 2 millions de machines, ça consomme. Donc, voilà, les problèmes qui se posaient en centralisé peuvent toujours se poser sur Internet. En gros, pour résumer, Internet rend possible le fonctionnement à centré, mais n'oblige pas à ce que ça marche comme ça. C'est aux utilisateurs de faire en sorte que le truc fonctionne correctement. Donc c'est à nous de bien utiliser Internet pour garder les avantages d'Internet. Alors, détailler un peu plus comment ça marche. Donc Internet, en gros, ça va ressembler à ça. En très simplifié, évidemment. Vous avez ici... Non, mon... Oui, voilà. Vous avez ici vos machines à vous qui sont sur votre réseau local derrière votre box, par exemple, qui sont toutes branchées à votre box et puis c'est, voilà, elles se parlent entre elles comme ça. Votre box est elle-même reliée au réseau de votre fournisseur d'accès, qui a un gros serveur ici dans lequel il connecte tout ce qui vient de toutes les box qu'il a dispatchées un peu partout. Et puis les différents serveurs des différents fournisseurs d'accès, des différents opérateurs, sont reliés entre eux sur ce qu'on appelle des points d'interconnexion, donc des points d'échange ou des GICS, ce qui sont en gros des endroits où tous les opérateurs viennent se brancher les uns aux autres et peuvent se parler comme ça. D'où le nom Internet. Internet, c'est de l'anglais, ça veut dire Interconnection of Networks, donc une interconnexion de réseaux. À partir du moment où vous avez plusieurs réseaux qui se parlent entre eux et que vous sortez du réseau de votre fournisseur d'accès pour aller parler à des gens qui sont chez un autre opérateur, vous avez de l'Internet parce que vous avez plusieurs réseaux qui communiquent entre eux. Donc, comme je disais juste avant, on voit bien qu'il y a des machines. Il y a des machines sur le trajet. Quand vous parlez de cet ordinateur-là à celui-là, ça passe par la box. Si vous allez voir quelqu'un qui est ailleurs, ça va passer par le fournisseur d'accès, etc. Donc, on voit qu'il faut quand même faire gaffe à ce que fait le fournisseur d'accès. C'est une position importante. Je vais y revenir, mais il faut quand même y faire attention. Maintenant, comment ça marche? Comment les machines arrivent à se causer entre elles? Typiquement, voilà, il y a pour une machine, quand vous vous adressez à une machine, il y a une espèce d'interphone à l'entrée de la machine avec 65 535 boutons de sonnette. Ça fait un peu beaucoup. Et quand vous appuyez sur un bouton, ça sonne. Bah, vous voyez ce qui se passe dans un interphone d'un immeuble. Ça sonne à l'appartement. S'il y a quelqu'un qui vous répond, il va vous parler un peu. Il va potentiellement vous ouvrir la porte ou pas. S'il n'y a personne dans l'appartement, ça sonne dans le vide et vous restez bloqué à la porte. Dans un serveur, ça va marcher de la même manière. Donc vous dites que vous voulez communiquer avec la machine sur le port machin. J'en reparlerai peut-être un peu après. Donc vous dites que vous voulez parler sur le port machin. Est-ce qu'il y a un service qui répond, qui écoute sur ce port-là ou pas? S'il y a un service qui écoute sur ce port-là, il va vous dire est-ce que je vous laisse passer ou pas. Et s'il n'y a personne, ça bloque pas. Donc, enfin ça bloque justement. Il n'y a rien qui répond, vous ne pouvez pas rentrer par là. Donc c'est comme ça que ça va marcher à l'intérieur d'une machine. Maintenant, sur le réseau. Entre deux machines, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous avez un réseau physique, donc vous avez le câble ou la fibre posée par votre fournisseur d'accès, qui sert à faire circuler l'information, comme les rails d'un train. Et puis, comme les rails d'un train, vous voyez, Si vous regardez un train, vous avez toujours les mêmes roues, le même support, qui est le truc qui passe sur les rails. Et puis au-dessus, vous avez des choses différentes. Vous avez des wagons marchandises, vous avez des wagons avec des passagers dedans, vous avez des wagons restaurants, etc. Enfin, il y a plein de choses différentes. Sur Internet, ça va être pareil. On va avoir une couche IP, qui est le paquet de base qui est échangé entre deux machines. Et sur cette couche IP, on va pouvoir faire passer différents protocoles dont on va reparler. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Alors il y a un truc qui ne va pas dans ce schéma quand même, c'est que là, tout est attaché au même train. En vrai, Internet fonctionne avec des tout petits paquets. Donc il y a un truc accroché, c'est des trains avec un seul wagon. Donc vous n'avez pas à la fois du web, du mail et tout ça qui passe en même temps. Chacun sa loco. Voilà. Pour se repérer, oui. Les trains suivent les rails pour aller d'une machine à l'autre. Pour se repérer, chaque machine est identifiée par une adresse IP. Donc une adresse IP, c'est un truc... Alors en IPv4, c'est 4 nombres entre 0 et 255 séparés par un point. Vous avez peut-être déjà croisé ça. En IPv6, qui est la future version qui est en train de se mettre en place, ça va être des adresses plus longues et plus complexes parce qu'il faut servir plus de machines. Enfin bon, voilà. Et donc, comme chaque machine est identifiée par son adresse IP, et que retenir toutes les adresses IP de tête pour un humain, c'est pas facile, on a mis en place en plus un truc qui s'appelle le système des noms de domaine. Donc, Domain Name System en anglais, donc DNS. Alors, le principe, c'est qu'on va associer à une adresse IP un nom intelligible, ou plus ou moins intelligible. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand votre ordinateur là, essaie de faire une requête DNS, il va envoyer une requête pour dire « Je voudrais connaître l'IP de la machine que moi je connais sous ce nom-là. » Alors il envoie une requête au serveur DNS le plus proche de chez lui. Si c'est la première fois qu'il lui demande, le serveur DNS en question va dire « Non, ça je ne connais pas. » Donc il va se sentir bête. Il va dire « Bouge pas, je me renseigne. » Et il va aller voir l'autre serveur DNS qui est plus loin. Et ça va remonter comme ça en cascade, potentiellement jusqu'au serveur racine. Et le serveur racine va dire, alors je ne connais pas précisément la machine que tu me demandes, par contre je connais la zone qui le gère, donc je sais que si tu vas demander à lui, il saura te dire où c'est. Et ça va redescendre comme ça, donc vous allez trouver l'IP qui correspond, et puis on va vous la renvoyer. Et chaque serveur, au passage, qui s'est senti bête la première fois qu'on lui a demandé et qui ne savait pas, va essayer de mémoriser l'adresse pour se sentir moins bête la prochaine fois. Donc, tout ça, c'est géré par une entité qui s'appelle LICAN, qui est un truc américain, enfin voilà, qui gère le DNS principal et qui gère les domaines de premier niveau, donc .fr, .com, .org, tout ça. LICAN décide quels sont ces domaines de premier niveau et ensuite délègue la gestion de chacun de ces domaines à une autre entité, par exemple le .fr est géré par une association qui s'appelle la FNIC. Et ensuite, vous allez pouvoir... Il y a des gens qui s'appellent des registrars qui sont chargés de vous permettre d'accéder, d'avoir vos propres noms. Donc vous allez voir le registrar, vous lui dites « je voudrais le nom de domaine qui s'appelle machin.truc.fr » par exemple. Il vous donne l'accès contre un certain paiement, donc on va y revenir. Vous pouvez réserver un nom de domaine pour un an ou pour plusieurs années d'un coup. Tout ça, on pourrait tout à fait faire marcher Internet sans les noms de domaine. Ça fonctionnerait aussi bien, par contre, ce serait très chiant à utiliser pour les humains. Donc voilà. Alors, si on veut s'auto-héberger, donc on vient de le voir, on a besoin d'un nom de domaine. Alors ça, la réservation d'un nom de domaine, c'est entre 5 et 15 euros par an. Voilà, ça passe. On a besoin d'une machine qui tourne. Ça va consommer un peu d'électricité, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez les exemples que j'ai mis là, j'ai mis un Raspi, un Linutop. On peut faire tourner ça sur des vraiment toutes petites machines. Pour mon serveur à moi, chez moi, qui tourne, bon, le serveur web, j'ai quand même pas mal de visites, donc peut-être ça suffirait pas, mais le serveur mail... Je pourrais tout à fait le faire tourner là-dessus, ça ne poserait aucun problème. Même ça, ce serait encore overkill. Donc vous voyez qu'on n'a pas beaucoup besoin de... On n'a pas besoin d'une machine très puissante. Un truc qui marche très bien, si vous avez un vieil ordinateur portable, par exemple, où l'écran est cassé, ou le clavier est foutu, vous ne pouvez plus vous en servir comme portable, recyclez-le comme serveur, c'est ce qui marche le mieux. Parce que, en plus, ça fait que vous avez une batterie dessus, donc le jour où il y a une coupure de courant chez vous, la machine reste allumée et ça repart automatiquement après. Donc c'est super pratique, c'est ce que je fais chez moi. Voilà, sur cette machine, c'est quand même vachement mieux si vous mettez un système libre, hein, mais bon, on est à Capitole du Libre, je ne vais pas non plus vous faire un cours là-dessus. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est d'avoir un bon accès à Internet, parce que les gens qui vont venir parler à votre machine, c'est chez vous, donc ça dépend de votre accès à Internet à vous. Donc, petit point sur les fournisseurs d'accès qu'on connaît en France, les bons, les méchants. Ouais, mais il faut bien. Alors, le pire du pire actuellement, c'est Orange. Alors, c'est Orange, donc, pour résumer rapidement les trucs qui vont pas. Orange ne vous fournit pas d'IPv6, donc, pour le moment, vous pouvez encore accéder à toute la partie legacy d'Internet, mais il y a des nouveaux trucs qui se montent auxquels vous n'aurez pas accès. Et Orange ne vous fournit pas d'IP fixe, c'est-à-dire que l'adresse IP qui sert à identifier votre machine sur le réseau va changer régulièrement. Donc, si on essaie de contacter votre machine et puis c'est plus la bonne IP, donc ça va ailleurs, donc ça pose plein de problèmes. Orange, je vous ai parlé des ports juste avant, les trucs à l'interphone. Orange bloque certains ports, en particulier le port 25, celui qui sert pour les mails. C'est comme si vous vouliez parler, vous arrivez en bas de l'immeuble, vous voulez sonner à l'interphone pour parler au facteur, parce que le facteur a un appartement dans l'immeuble, et non. Ce bouton-là, on ne peut pas appuyer dessus. Donc, c'est assez ennuyeux. Bon, les autres, Numericab, je ne sais pas trop où ils en sont. Pendant vachement longtemps, Numericab, ils étaient pires, ils étaient encore pires que Orange. Parce que si vous regardiez votre contrat Numericab, il y avait marqué dessus que vous n'aviez pas le droit de faire tourner un serveur chez vous. Donc, en gros, c'est des gens qui vous fournissaient de l'accès à Internet, en vous interdisant de faire tourner un serveur, ce qui est faire marcher Internet. Donc, ils vous fournissaient de l'accès à un truc en vous interdisant de l'utiliser. C'est un peu spécial. Ils sont revenus dessus, donc ça progresse. Ils ont fait quelques progrès depuis qu'ils ont bouffé SFR, enfin voilà. Mais ce n'est pas encore forcément génial. Bouygues Télécom, je ne connais pas trop, donc je ne saurais pas trop vous dire les détails. Des échos que j'en ai eus, vous avez de l'IP qui n'est pas tout à fait fixe. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas trop, ils vont rebrancher un câble et vous allez changer d'IP, on ne sait pas pourquoi. Bon. Dans les gros FAI commerciaux, au niveau de l'auto-hébergement, le mieux, ça va être Free ou OVH actuellement. Il y a d'autres choses à leur reprocher par ailleurs, hein. Je ne dis pas qu'ils sont très bien, mais au niveau auto-hébergement, ils ne vous posent pas encore de bâton dans les roues. Donc pour le moment, ça va. Après, le mieux, toute catégorie, évidemment, ça reste les membres de la Fédération FDN. Donc ça, ici on est à Toulouse, donc Tête à Neutral, qui est le plus gros membre de la FEDE, je précise. Vous avez FDN, vous avez Illico, Fait Maison à Nantes, Ilot, enfin il y en a plein. Il y a Elise à Lyon, dont je fais partie. C'est une FEDE qui va même ailleurs que la France, vu qu'on a des membres de Neutrinet ici dans la salle, qui est le fournisseur d'accès associatif en Belgique. Enfin voilà, donc... Le mieux, c'est d'aller voir ces gens-là parce qu'ils vont vous faire du vrai Internet neutre où ils ne vont pas vous surveiller, ils vont pas, donc c'est bien, c'est juste bien. Sachant que ce que font beaucoup les membres de la FEDFDN, c'est qu'ils vous proposent potentiellement de l'accès à Internet direct, ils vous proposent aussi du VPN. VPN, ça veut dire Virtual Private Network, ça veut dire que vous avez une IP à eux, donc une IP propre, machin, tout ça, fixe, et que vous allez pouvoir faire passer sur votre ligne d'un autre fournisseur d'accès un accès propre par leur fonctionnement à eux. Donc c'est ce qui permet de garder l'avantage d'avoir ces gros machins-là avec leur télé, avec leur machin tout ça inclus, et d'avoir quand même de l'Internet propre dessus. Donc c'est une solution intéressante. Maintenant, qu'on a causé de comment on va faire le serveur, je vais vous dire un peu ce qu'on peut mettre dessus. Alors le truc auquel les gens pensent en général, donc je disais, c'est le web. Le web, c'est un peu un gros truc, enfin ça a tendance à devenir le protocole unique, c'est-à-dire que tout le monde accède à tout par une interface web. Ce qui n'est pas forcément génial, parce que souvent, il y a des trucs qui seraient plus adaptés, qui seraient plus économes, etc. Mais bon, ça marche. C'est quelque chose qui, effectivement, qui est simple à mettre en place, sauf si on va creuser dans le détail, et qui va être utilisable à peu près partout. Vous pouvez accéder à partir de votre smartphone, si vous avez un truc plus évolué que le mien, vous pouvez accéder à tout ce qui est web, ça marche bien. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Alors, un autre truc un peu important, on l'a dit, ça va être les mails. Donc les mails, installer un serveur mail chez soi. Alors, installer un serveur mail chez soi pour recevoir des mails, c'est simple. Vous installez le truc, juste ça marche. Pour envoyer des mails, ça peut être un peu plus dur parce qu'il y a plein de règles anti-spam complètement débiles qui font qu'en gros, il y a plusieurs fournisseurs d'adresses mail qui, si vous n'êtes pas un super gros truc super connu, vont juste jeter vos mails, donc c'est pas forcément pratique. Alors, il y a moyen de mettre un peu les mains dans le cambouis pour régler pour que ça passe. Ça peut être un peu plus chiant. Là, je suis pas de Toulouse, je vous ai dit, donc je suis hébergé par quelqu'un. J'ai voulu prendre contact avec, et puis il avait une adresse chez Google, et Google a jeté mon mail. Donc, bon, je vais aller devoir corriger ça, mais voilà. Donc, ça peut marcher pour... Pour recevoir, c'est super bien. Vous avez directement votre courrier qui arrive chez vous, c'est bien. Pour envoyer, ça peut être un peu plus chiant, donc il faut soit mettre les mains dans le cambouis, soit faire autre chose. Enfin, on s'en sort quand même. Ce qu'il faut savoir quand on a un serveur mail chez soi, c'est que potentiellement, on va envoyer des mails. Comme il disait dans le film, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous allez envoyer des mails, il faut faire gaffe à ne pas vous trouver en train d'envoyer du spam. C'est plus sympa pour les autres. Donc voilà. Un truc à savoir qui est important sur le mail, qu'il soit auto-hébergé ou pas. Un mail, quand vous le diffusez sur Internet, quand vous envoyez un mail à quelqu'un, ça va passer sur Internet comme ça. Le pointeur ne marche plus non plus, bon tant pis. Donc ça va ressembler à ça, c'est-à-dire à une carte postale. Tous les gens qui vont, tous les serveurs par lesquels votre mail va transiter, c'est comme si vous passiez une carte postale à quelqu'un, puis vous lui disiez de la passer à quelqu'un, etc. Toute personne sur le trajet est susceptible de tout lire, à qui vous l'envoyez, ce que vous écrivez dedans. Ça, c'est vrai, quel que soit le système de mail que vous utilisez, si vous utilisez Gmail, si vous utilisez laposte.net, si vous utilisez n'importe quoi, si vous êtes auto-hébergé, c'est à vous de faire en sorte que les mails soient chiffrés. C'est pas le serveur qui gère. Voilà. Donc, sinon, de la messagerie, on peut faire du mail, mais on peut faire autre chose. Alors, le protocole historique de messagerie, c'est IRC. Donc, c'est un protocole historique, donc vieux, donc centralisé. C'est un peu du troll, mais en gros, voilà. IRC, ça, on peut faire tourner un serveur IRC sur sa machine, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui va être plus intéressant, ça va être d'utiliser plutôt XMPP, donc le réseau Jabber, qui permet de faire de la messagerie instantanée vraiment de serveur à serveur. Si vous avez votre serveur Jabber chez vous, un de vos potes a son serveur Jabber chez lui, et vous vous parlez directement comme ça, sans avoir besoin de... Donc voilà, c'est assez pratique. Si vous faites de la conversation vocale, il y a Mumble qui marche bien. Si vous faites de la visio, il doit y avoir des outils aussi, mais alors ça, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, donc je ne les connais pas. Vous pouvez faire tourner plein de trucs sur ces choses-là aussi. Il y a plein de projets de réseaux sociaux qui passent par XMPP, par exemple. Vous pouvez mettre en place un bot IRC qui va être joignable sur un serveur IRC quelconque et puis qui va vous servir à interagir avec votre machine. Donc il y a plein de trucs intéressants à faire. Alors, les autres services, ceux auxquels les gens pensent pas forcément, mais qui sont très intéressants. Alors, en premier lieu, SSH, c'est ce qui vous permet d'avoir un accès à votre machine. Donc, ça vous sert, depuis l'extérieur, à venir sur votre machine et à pouvoir faire des choses dessus. Donc, ça, on en causera. Je fais un atelier demain, donc les gens qui seront là demain, on causera de ça. C'est très pratique pour énormément de raisons, notamment ça vous sert à accéder à votre machine, à votre serveur, ça peut aussi vous servir à accéder de manière sécurisée à toutes les autres machines qui sont chez vous s'il y a besoin. Notamment, un des gros avantages d'SSH, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du tunneling, c'est-à-dire que vous passez, depuis l'endroit où vous êtes, vous passez par une liaison SSH pour contacter le reste d'Internet. Donc si vous êtes dans un hôtel ou dans une fac ou un truc comme ça où il y a un réseau qui est assez bloqué, où vous ne pouvez pas tout faire, si vous pouvez faire du SSH, vous pouvez sortir sur Internet par la connexion que vous avez chez vous. Et donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça peut être très intéressant. Donc, autre service. Vous avez une machine, si vous avez un serveur, vous avez une machine qui a priori va tourner en permanence, ou peut-être pas, mais voilà. Donc vous avez une machine qui peut tourner. Vous avez votre machine à vous, qui, potentiellement il peut lui arriver n'importe quoi. Donc vous pouvez utiliser votre serveur pour faire des sauvegardes de votre machine locale. Ça, si jamais il arrive quelque chose à votre machine locale, vous avez toujours vos données, elles sont sur votre serveur. Vous pouvez aussi faire le contraire, sauvegarder ce qu'il y a sur votre serveur, sur votre machine locale. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire des sauvegardes au cas où il y a une machine qui crache. Donc si vous avez deux machines différentes, faut en profiter. Vous pouvez vous servir de tout ce qui est outils de gestion de version, donc Bazaar, Git, Mercurial. Ça, c'est très pratique quand on fait des projets à plusieurs. C'est très pratique aussi quand on bosse tout seul. J'ai préparé ces slides avec un dépôt Git sur mon serveur. Puis à un moment, j'ai eu besoin d'y avoir accès. J'avais pas ma machine sous la main. Bah, j'ai cloné le dépôt et puis j'ai voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique, même quand on bosse tout seul, même pour des trucs qui ne sont pas ce à quoi on pense habituellement, donc qui ne sont pas du code. Mais voilà, donc faut pas hésiter. Si vous avez un serveur qui tourne, vous pouvez faire de l'échange pair à pair dessus. Typiquement, un truc qui est pratique, vous voyez tous les ISO des systèmes Linux, les ISO de Mandriva, de Debian, d'Ubuntu et compagnie. Le jour de la release, tout le monde se précipite sur le site officiel, ça rame. Si vous les diffusez par les réseaux pair à pair, plus il y a de monde, mieux ça marche. Donc il faut en profiter. Donc, faut pas hésiter à utiliser votre serveur pour faire tourner du torrent, pour partager des fichiers que vous avez le droit de partager, évidemment. Pensez aux autres gens, je mets ça, c'est que vous avez votre serveur qui est sous un système libre, qui est résistant, etc. C'est pas forcément le cas des gens qui récupéreront vos fichiers. Donc, si vous diffusez beaucoup de fichiers, ça peut être intéressant de mettre un antivirus sur votre serveur pour éviter de contaminer les pauvres gens qui sont sous Windows ou sous macOS et qui vont récupérer vos fichiers. Voilà. Un truc qui peut être intéressant de faire tourner des jeux. Bah, pareil, vous voulez jouer avec vos potes, vous allez sur le serveur officiel, il y a plein de monde, ça rame. Vous avez votre serveur chez vous, lancez le jeu dessus et jouez par chez vous. Ça marche bien. Et puis, si vous avez une machine qui tourne en permanence, qui a un peu de ressources et que vous n'exploitez pas, vous pouvez participer à des projets comme Boeing qui vous permettent de contribuer à de la recherche scientifique. Donc, si votre machine est, à un moment où votre machine n'est pas utilisée, elle va travailler sur repérer des exoplanètes ou sur d'autres trucs dans ce genre-là. Donc, il y a plein de projets sympas qui peuvent marcher. Donc, histoire que les ressources que vous avez soit utile à tout le monde. Donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, centraliser, ça pose plein de problèmes. Donc, vaut mieux essayer de dispatcher, d'avoir chacun son petit serveur chez soi. Internet, c'est quelque chose qui est public et c'est quelque chose qui repose sur les gens et c'est à nous de le prendre en main. Il est important que votre fournisseur d'accès soit neutre. Sur ces deux points-là, juste après ma conf à moi, il va y avoir une conférence de Benjamin Bayard, que je vous invite à aller voir. Il parlera de ça beaucoup mieux que moi. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop de ressources. Vous pouvez prendre une vieille machine. Ça va, pour votre petit site perso, pour vos petits services, ça ne va pas poser de problème. Il n'y a pas besoin de grosses ressources au niveau de la machine. Au niveau humain, il va falloir potentiellement mettre un peu les mains dans le cambouis au début, mais une fois que ça tournera, la plupart du temps, vous n'avez plus à toucher grand-chose derrière. Donc ça peut être un peu chronophage au début, mais après ça marche bien. Et puis, il va y avoir plein de services chouettes à faire tourner. Alors, si vous voulez mettre ça en pratique, vous avez essentiellement deux solutions. Si vous voulez juste que ça marche, vous voulez pas vous prendre la tête, tout ça, il y a un truc très bien à aller voir, c'est Why You Know Host. Il y a des gens dans la salle qui pourront vous en parler, je crois. Et si jamais vous voulez comprendre comment ça marche et que vous voulez apprendre à faire marcher tout ça, bah, comme je disais, je fais un atelier demain à 10h, donc il ne faut pas hésiter à venir me retrouver et on va apprendre un peu ça. J'ai terminé pour cette présentation, donc maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute.
Alors tu dis qu'on peut prendre n'importe quelle machine pour faire tourner son serveur, mais vu qu'elle tourne en permanence, il faut mieux, j'imagine, qu'elle ne consomme pas trop. Donc qu'est-ce qu'il y a comme type de machine qui ne consomme pas tellement et pour des performances pas trop mauvaises quand même?
Alors typiquement, des machines qui ne vont pas beaucoup consommer, tu as tout ce qui est Raspberry Pi, tout ce qui est Linutop et compagnie, donc des machines à bas coût qui sont prévues pour ce genre de choses. Le plus connu, ça va être le Raspi. Après, si tu es intéressé par si tu es intéressé par Why You Know Host, apparemment donc les gens qui font ça sont en train de mettre en place une petite alors je sais pas le nom.
On peut que recommander Olimex qui fait des boards un peu dans le même style que le Raspberry Pi qui sont peu chers, peu consommatrices et plus rapides en termes d'exécution que le Raspberry Pi. Et voilà.
Après, pour dire comme je vous disais, moi personnellement, mon serveur chez moi, c'est un vieil ordi portable qui a un clavier qui est complètement mort, donc comme portable, ça n'a plus grand intérêt. Et globalement, niveau conso, ça passe. Hein. J'ai plus les détails en tête, mais ça se voit pas trop. Bah, c'est ta machine. Donc, si jamais tu manques de capacité de stockage, tu rajoutes un disque dur dessus et puis ça passe. C'est un des gros avantages aussi d'avoir sa machine chez soi, c'est que c'est toi qui as la main dessus. Donc, si tu veux faire des changements dessus, bah, tu peux.
Deuxième question, est-ce qu'on doit rentrer dans le code? Tu disais, on met les mains dans le cambouis pour que ça marche. Est-ce qu'il faut, quand tu dis ça, à quoi tu penses précisément?
C'est de la configuration. C'est dire régler les logiciels pour qu'ils écoutent comme ça. C'est pas particulièrement méchant, enfin faut prendre un peu de temps, lire de la doc, ça se fait. Après, si vraiment vous voulez pas du tout vous prendre la tête, Why You Know Host, c'est fait pour ça et ça marche très bien.
D'un point de vue technique, est-ce que chez toi tu as une box et dessus tu fais une redirection vers ton serveur web par exemple, ou ouais, tu es directement sur internet avec ton serveur perso?
Alors, de chez moi, actuellement, j'ai une box. Et j'ai donc, je dis à la box de rediriger tout ce qui va directement vers le serveur. Après, je suis membre de la FEDE, je suis en train de faire la ligne de test d'Elise, donc on est en train de mettre ça en place. Donc, potentiellement, je ne vais pas rester comme ça éternellement. Mais actuellement, oui, je suis derrière une box et ça, je demande à la box de tout rediriger vers ma machine.
Juste une question, au niveau juridique pour ceux qui transitent sur son serveur en définitive, ouais, que ce soit au niveau, je sais pas moi, des données ou des informations, où s'arrête la responsabilité, quoi, surtout vu actuellement avec toutes les mesures qui sont prises, un peu de répression sur Internet. Voilà, je me posais la question, est-ce que c'est pas fait pour décourager les gens aussi?
Alors, vous êtes responsable, c'est votre machine, c'est vos données, vous êtes responsable de ce qu'il y a dessus. Si vous n'hébergez que vos données à vous, bah de toute façon, c'est votre responsabilité. Si jamais vous voulez faire profiter à vos copains de votre machine, il y a une responsabilité d'hébergeur qui va être un peu compliquée. Alors, en gros, je crois que c'est si vous ne faites qu'héberger, vous ne mettez absolument pas en valeur, vous ne décidez pas ce qu'il y a dessus, tout ça. Vous n'êtes pas tenu pour responsable tant que vous n'avez pas été informé que le contenu est potentiellement problématique. Après, la responsabilité d'hébergeur est quand même assez... Enfin, c'est quelque chose de particulier. Je vous encourage à n'avoir que vos données à vous dessus. Enfin, de toute façon, c'est préférable. Mais...
Si tu as un site perso sur ton serveur chez toi, tu es censé garder les logs de connexion pendant un an.
Garder les logs de connexion, je suis pas convaincu que tout le monde soit obligé de le faire. Si ce sont juste tes données à toi, ton petit serveur perso, t'es pas forcément obligé. Après, les logs restent dans la machine.
Un site public, tu dois garder ça. Ouais. Les mails et tout, évidemment non, mais un site public, tu dois garder des informations de connexion.
Ouais. Mais après, les logs, ils s'accumulent sur le disque tout seul. Faut juste aller les voir de temps en temps, au cas où il y aurait un souci, mais sinon, tu les laisses s'accumuler tranquille et puis tu touches pas et puis ça marche.
Vous conseillez quel système d'exploitation, enfin quelle distribution sous Linux pour héberger sur une petite machine comme Raspberry Pi ou
Alors, basiquement, moi je vais vous dire que je conseille Debian parce que c'est ce que je connais. Je pense que c'est surtout... Je conseille Debian parce que j'ai toujours utilisé Debian, c'est à ça que je suis habitué, etc. Quelqu'un qui a utilisé autre chose va conseiller autre chose, donc c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait particulièrement un choix ultime. C'est vraiment, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu connais, de ce que tu vas savoir utiliser, tout ça. Juste peut-être éviter les trucs genre Arch Linux et compagnie, où il faut vraiment mettre les mains à la pâte, tout configurer toi-même. Parce que c'est là, si tu fais une petite bêtise, ça peut être problématique. Donc, il vaut mieux profiter des trucs qui sont déjà configurés, préconfigurés comme il faut. Mais si tu es aventureux, il ne faut pas hésiter.
Je peux répondre à sa question parce que la Raspbian fonctionne très bien sur Raspberry. Ouais. Moi, j'ai hébergé avec la Raspbian, ça marche très bien. Mais moi, ça marche. Moi, j'ai mis Raspberry avec Raspbian, ça fonctionne impeccable, c'est super, ça marche bien. Il tient la route. Par contre, j'ai mis. Comment ça s'appelle ? j'ai pas mis Apache comme serveur web. Voilà, il faut mettre autre chose. Il y en a les plus légers.
Ça se prononce Lighty.
Lighty, il faut mettre Lighty par exemple, ça c'est beaucoup mieux. Avec des optimisations que tu trouves sur internet, ils sont vachement bien. Par contre, pour les logs sur Raspberry, ils sont en montage temporaire. Il vaut mieux être en montage temporaire. Du coup, il n'y a plus de log après quand tu redémarres la machine. Okay. J'ai trouvé ce conseil sur internet en fait. Voilà. Parce que c'est pour limiter l'écriture sur la carte SD.
Après, au niveau de la réglementation pour les logs, tu es théoriquement tenu, si t'as un truc public, tout ça, tu es théoriquement tenu de les garder pendant un an. Ça reste théorique, c'est-à-dire que on va pas non plus t'en vouloir si ta machine a pris feu, s'il y a eu un souci normalement. Si tu montres que tu n'as pas fait exprès de dire que ça disparaisse, en théorie, ça passe. Après... Personnellement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, donc je ne saurais pas non plus trop dire.
Bonjour. Donc, en fait, je voulais te demander si tu avais déjà eu des soucis avec, par exemple, du déni de service ou des attaques plus généralement sur ce que tu avais fait chez toi. Et si, en fait, tu jugeais que c'était suffisamment, pas sécurisé, mais suffisamment protégé pour mettre des données importantes comme tes mails personnels et professionnels éventuellement.
Donc il y a deux questions niveau attaque, niveau DOS non je alors j'ai peut-être eu un guignol qui a essayé une fois mais il était tout seul, il savait pas s'y prendre donc ça a pas marché. Non, honnêtement, un des gros avantages c'est que c'est décentré, c'est qu'il y a plein de machines partout. Quand tu fais de l'auto-hébergement, tu as une machine que peu de gens connaissent. Et potentiellement, s'il y a une personne qui t'en veut à toi personnellement, qui a décidé de te pourrir toi personnellement, elle va peut-être te poser problème. Tout ce qui est attaque automatisée, tout ce qui est gros machin, tu vas passer au travers parce que ces trucs-là ne te connaîtront pas. En gros, quand on cause de la NSA qui a mis en place la surveillance généralisée, tout ça, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient un nombre limité de machines auxquelles s'adresser. Si tout le monde était auto-hébergé et qu'il fallait espionner tout le monde avec chacun sa machine, ils ne seraient pas capables. Et donc, les données perso, tout ça, tu vas potentiellement, évidemment, toi, tu n'es pas un expert de la sécurité, donc il ne faut pas trop bidouiller, parce que si tu fais des bidouilles que tu ne comprends pas, tu risques d'ouvrir des failles, tout ça. Globalement, tes données sont quand même plutôt pas mal en sécurité chez toi. Et si tu compares à un gros truc comme Google, comme tout ça, ils seront peut-être protégés tes données de certaines attaques, mais d'un autre côté, eux, ils se gêneront pas pour les exploiter. Donc, la sécurité absolue, de toute façon, n'existe pas. Et globalement, chez toi, t'es pas plus mal qu'ailleurs.
Voilà, moi c'est pour la documentation pour mettre en place les services. Est-ce qu'il y a des sources que vous recommanderiez
Basiquement, je vais te répondre, tu peux venir chez moi. Tout ce que j'ai mis en place sur ma machine, j'ai expliqué comment j'ai fait. Donc ça peut déjà être un point de départ. Sinon, la documentation Ubuntu FR est très fournie. Et tu as notamment dans la documentation une page serveur qui liste pas mal de choses comme ça, donc ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas hésiter non plus à prendre contact avec... Il y a des communautés autour de l'hébergement, et alors je ne saurais pas citer d'adresse, mais en général, c'est des gens qui sont assez ouverts et qui expliquent bien les choses, donc il ne faut pas hésiter à les voir. Globalement, le forum Ubuntu FR et la documentation qui est à côté sont vachement bien. Donc je dis ça, pas ça juste parce que je suis dessus, mais il ne faut pas hésiter.
Merci. Il y a le wiki auto-hébergement, auto-hébergement.fr hein, qui est assez fourni. wiki.auto-hébergement.fr.
Je savais que j'avais oublié un truc. Merci.
Je voulais dire que pour le taux hébergement sur Raspberry, il y a un article sur LinuxFR qui est paru dernièrement aussi. Ouais. Je ne l'ai pas testé, mais il a l'air assez complet quand même.
Encore une ou deux questions, alors les deux dernières.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat qu'il faut, je pense, ne pas oublier de faire de la redondance par rapport aux données, aux sauvegardes, ouais. Tout ça. Je pense que c'est le plus important parce qu'une erreur de manip est vite arrivée. Ouais. On perd assez rapidement ces données. Qu'après aussi, on est assez tributaire du débit qu'on nous fournit. Donc, si on est un peu. Je pense que pour les mails, tout ça, ça suffit. Mais des fois, si on veut des services comme le cloud, c'est un peu plus problématique. Et ce sera tout.
Ben, pour rebondir là-dessus, effectivement, l'ADSL, c'est un débit montant qui est pas extra, donc pour faire diffuser plein de choses, c'est pas forcément pratique, mais on s'en sort. Effectivement, pour le mail, il y a absolument pas de souci généralement. Et un truc important à savoir sur le mail, c'est que le protocole est fait de telle manière que si votre serveur tombe en rade un petit moment, tant que ça c'est pas trop long, l'autre serveur qui essaie de vous envoyer va réessayer plus tard, et donc un serveur mail, c'est pas nécessairement allumé en permanence. Donc ça dépend des services. Évidemment, si vous avez un serveur web, c'est mieux que le serveur soit allumé au moment où les gens vont essayer d'aller dessus. Mais c'est pas forcément le cas de tous les trucs. Donc, par exemple, si vous déménagez, des choses comme ça, que le serveur soit coupé un petit moment, c'est pas très grave. Donc faut pas s'inquiéter à propos de ça.
Concernant ton atelier de demain matin, est-ce que c'est accessible et compréhensible par tous, même les ignares comme moi? Et est-ce que c'est sur inscription? Et est-ce qu'il faut venir avec une machine?
Alors, sur inscription, non, je ne crois pas. Je ne suis pas de l'orga, donc si. Bon. Ah, ok, bon. Autant pour moi. Donc, bah, allez voir les gens de Capitole du Libre. Ce qui vaut mieux venir avec son ordi, c'est mieux, ouais. Vu que, voilà, on va manipuler. Niveau public visé, je vise vraiment le grand public, moi, personnellement. Plutôt, c'est préférable d'avoir déjà utilisé un peu la ligne de commande, parce qu'on va s'en servir, donc qu'on passe pas trop de temps à expliquer ça, mais j'essaie de faire des choses qui restent accessibles au grand public, donc et essentiellement parce qu'en fait, si j'ai un public trop geek dans la salle, ils vont rapidement en savoir plus que moi, donc voilà. Mais, ouais. Non, c'est un ordi sous Linux, oui, quand même. Bah, si c'est ton serveur que tu vas laisser allumer en permanence, avoir d'autres systèmes que celui qui va tourner en permanence, c'est pas utile. C'est de la place perdue. Mais sinon, ça pose pas de problème. Donc, si tu veux faire un multiboot, avoir plusieurs systèmes, tu mets ça sur ta machine que tu vas redémarrer fréquemment, pas sur le serveur. Mais sinon, dans l'absolu, ça pose pas de souci.
Une dernière.
C'était juste pour vous donner une info avec l'auto-hébergement. On peut mettre en place un projet OneCloud qui permet de se débarrasser de Google complètement sur Raspberry. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un Raspberry, mais je pas sur Raspberry, sur un Android plutôt. Ouais. J'ai un Android et je me suis complètement débarrassé de Google.
Ouais. Voilà. Oui, donc il y a plein de super applications, évidemment, on ne peut pas parler de tout. Donc ouais, les trucs genre OneCloud et tout ça, c'est vrai que j'ai un peu fait l'impasse dessus, mais c'est très intéressant à regarder aussi.
Eh bien, merci. Et donc, pour ceux qui veulent l'atelier demain matin, et ça continue à 18h30 avec la conférence plénière dans l'amphi numéro 1.